Le dimanche soir, France Culture vous invite à vivre l'expérience. Un espace sans charte ni format, où l'imaginaire peut s'envoler. Aurélie Charron.
L'expérience commence. Tanguy Viel avait un projet de livre sur les trains. Il est venu nous en parler. On a pensé que ça pouvait être aussi une aventure radiophonique. Et finalement, le livre des trains est né. Avec Gaël Gillon à la réalisation, Tanguy Viel est parti sur les rails en Angleterre, à l'origine de la première locomotive, pour questionner cette vitesse nouvelle, ses voisins de hasard. Il tente le plus vieux trajet du monde et part en quête du sentiment ferroviaire.
Sauvage, je prêt à partir, vous allez monter en voiture s'il vous plaît, page de la fermeture des portes, sauvage, j'attends son départ.
Le livre des trains. Tanguy Viel, Gaël Gillon. Au début du chemin de fer, quant à ceux qui ont écrit quelque chose sur leurs impressions de voyage, beaucoup se dirent d'abord incommodés par la vitesse nouvelle, à cause des arbres dehors qui défilaient trop vite, comme autant d'hologrammes à la surface des vitres, tandis qu'à l'arrière-plan, les maisons avaient l'air d'onduler sur la ligne d'horizon. Là, à 70 km/h, avec en plus les bruits de l'acier qui crissait dans la plaine et la vapeur sifflante à l'orée des tunnels, sans parler de l'épaisse fumée qui sûrement pénétrait jusque dans les wagons, les voyageurs n'étaient jamais vraiment sereins, gardant leurs yeux fixés sur leur montre à gousset, esclaves soudain d'une impatience qui ne faisait pourtant qu'allonger les heures, mais contre laquelle rien, aucun divertissement n'y faisait, pas même le journal que de toute façon ils ne parvenaient pas à lire, ni les conversations qu'ils n'osaient pas avoir avec leurs voisins, à cause de toute cette tension qui les mobilisait, dans les compartiments encore rudimentaires, sans que rien ne pût leur faire oublier les secousses, le bruit continu, le paysage devenu fou. C'est ainsi qu'au début des années 1860, dans la plus grande revue médicale de l'époque, un article fut entièrement consacré à l'influence du voyage en train sur la santé publique, où il était expressément écrit que le chemin de fer avait toutes les chances de provoquer des problèmes aussi divers qu'une congestion du cerveau, une ankylose des muscles, et même une schizophrénie possible, à cause notamment de la surabondance d'excitation visuelle, c'est-à-dire l'accumulation complètement folle de choses vues et disparues en si peu de temps, du genre qu'un cerveau humain de cette époque-là, croyait-on, ne pouvait supporter sans une vive inquiétude intérieure.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de cette enceinte destination de Ashford International et Londres, Saint-Pancrasson. Notre train prévu d'arriver à Ashford International à 11h07 et Londres, Saint-Pancrasson, 11h43 dans le cadre.
Malgré toutes les heures passées ces derniers mois à lire des choses sur les trains, rien n'a tant rempli mon corps que cette vitalité-là. Quand, dans un lent travelling, j'ai vu s'éloigner la ville, se clairsemer les immeubles et les entrepôts, les jardins ouvriers et les quelques silhouettes cultivant leur arpent, et que tout ça ressemblait à l'heureux défilé d'un monde vierge et neuf. Je me souviens qu'à cet instant où le train s'était branlé, tandis que le matin se levait sur les quais encore humides, je me souviens que chaque chose vue qui se présentait là était, pour la première fois à mes yeux, débarrassée de son souci. Les barres d'immeubles qui n'en finissaient pas, les vélos sur les balcons et le soleil naissant sur le béton froid, les enseignes lumineuses de la zone commerciale, les hameaux de moellons perdus dans la plaine blonde, où le soleil encore bas diffusait sa lueur pâle et lointaine, comme si le train lui-même ne voulait pas que le jour se lève trop vite. Alors j'ai sorti mon carnet et j'ai essayé de noter tout ça. La brume irisée qui rase les premières pousses de blé, les silos de métal qui presque toisent les clochers des églises, l'ombre encore à l'ouest qui se souvenait de la nuit.
Dans la campagne verdoyante, le train longeant sa voie de fer, emporte une foule brillante, où là-bas, vers la grande mer, le mécanicien jongle sur sa locomotive, regarde l'air mauvais, plaide le beau chauffeur. La colère en ses yeux, lui d'une flamme vive, de sa femme chérie, les a volés le cœur. Roule, roule, train du plaisir, dans la plaine jolie, vers un bel avenir, d'amour et de folie. L'homme rude et noir qui conduit cette joyeuse foule tant de ses yeux rougis, une larme qui coule. Ces heureux voyageurs, on entend les refrains, suivant les rois et son destin. C'est le train du plaisir qui roule.
C'était la première fois que j'empruntais le tunnel sous la Manche. La première fois que je ressentais le poids du sable et les tonnes d'eau invisibles au-dessus de moi. Du moins que je pensais les ressentir, car en réalité, non. En réalité, quelque chose dans l'Eurostar vous le fait oublier. Peut-être le confort presque absurde, je veux dire, l'air ventilé qu'on respire à 50 mètres de profondeur et l'éclairage électrique qui continue de fonctionner tandis que là, dans un tube de béton protégé du sel et des algues marines, la plupart des voyageurs ne lèvent pas les yeux de leurs écrans d'ordinateur. Aussi, j'avais beau m'efforcer de me représenter la mer si épaisse au-dessus, le monde obscur et froid de la vie sous-marine censé nous entourer de toutes parts, rien n'y faisait. Moi aussi, j'étais seulement assis dans un train, roulant dans une nuit artificielle, sans le moindre sentiment sous-marin.
Avant de faire des voyages en train, j'ai plutôt commencé à lire des ouvrages sur l'histoire des trains. Enfin, je pense que, l'endroit depuis lequel j'avais envie de faire ce livre, c'était celui de mon bureau, en fait, quoi. Et je suis tombé sur un bouquin, je suis rentré dans une librairie, j'ai demandé s'il n'y avait pas une histoire des trains. Et c'était un super libraire, faut dire. Et il m'a sorti un truc épuisé depuis 20 ans, ce livre incroyable sur le train dans la littérature française, qui est une espèce de bible. Là, c'est un mec qui a dû faire une thèse, je pense. Et il a absolument tout compilé, de toutes les occurrences de ce que les écrivains ont pensé ou écrit sur le train, alors que ce soit dans les romans, que ce soit des jugements de valeur, sur les débuts du train, ou sur leur ennui dans le train, enfin c'est infini quoi. Alors là je sais pas si j'ouvre le bouquin, parce que n'importe où, parce que de toute façon il y a des citations à toutes les pages. Mais voilà, alors Hugo s'écrit en 1837. Ô poète, le fer et la vapeur ardente effacent de la terre, à l'heure où vous rêvez, l'antique pesanteur à tout objet pendante, qui, sous les lourds essieux, broyait les durs pavés.
Pas mal, hein ?
On pourrait en trouver d'autres, alors par exemple, qui écrit ça ? Oui, c'est ça, c'est Edmond Goncourt dans son journal qui s'ennuie en train. Je ne connais pas d'ennui pareil à celui du chemin de fer, un ennui si démoralisant qu'il est impossible de penser sérieusement à une chose et que ce n'est dans le secouement de votre cervelle qu'une succession de choses fugaces et bêtes. Ou alors, dans ces gares, au passage incessant des trains, la pensée de ceux qui les habitent ne doit avoir le temps de se poser sur rien. Elle est sous le coup d'un ahurissement produit par le mouvement perpétuel. À force de lire des choses sur les trains, je suis devenu, à ma manière, une sorte de spécialiste des données ferroviaires, abonné à tous les magazines dans lesquels on peut lire les choses les plus variées sur l'histoire des chemins de fer, pourvu de récolter la matière nécessaire à ce travail que j'ai décidé de mener sur les gares et les trains. Ce travail, je n'ose pas dire un livre, un ouvrage, un essai peut-être sur les voyages en train. Disons que c'est comme ça que je me le formule depuis longtemps, au point que si d'aventure on m'interroge sur mes activités ces derniers temps, alors pour seule réponse, je dis cela. Je dis que je travaille sur les trains, et même que j'écris un livre sur les trains. Encore que j'évite toute précision trop fâcheuse, à savoir s'il sera terminé bientôt et combien de pages il fera. Alors, après moi, je voudrais bien faire... Peut-être faudrait qu'il fasse un chapitre entier, rien que là-dessus, sur la façon dont les écrivains, et, ou même pas seulement les écrivains, mais toutes les réactions qu'il y a eu autour du train. Enfin, même s'il y a des livres entiers sur la question, mais bon, moi, dans mon travail à moi, il s'agit quand même de compresser un peu les choses. Et l'idée pour moi, ce serait d'arriver à partir de ça, à ensuite raconter, si possible, l'origine du train. Enfin, c'est un travail de collage, en fait, entre ces différents morceaux-là. Que nos trains accélèrent encore, il semble que les arbres et les maisons aient retrouvé leur place, arrimés à leur sol, qu'on regarde paisiblement passer le long des vitres closes, au point que même nos TGV qui vibrent et bourdonnent à 320 à l'heure, même eux bientôt nous paraîtront lents et fatigués. Encore que pour ma part, je trouve que ça va vite. En tout cas, il est encore possible de ressentir ça, la presque angoisse de la vitesse, à tout le moins la tension qui nous lie, nous, la voiture, les vitres, la vibration. À cause de cette impression qu'on a de scarifier le paysage au moyen d'un rasoir et laissant derrière soi je ne sais quelle écorchure que peut-être une biche ou bien un sanglier sidéré finira par enjamber. Dans ces moments, je crois comprendre le choc que ce dut être il y a 200 ans, d'être ainsi soudainement transporté par une machine qui se déplaçait plus vite qu'un cheval. L'événement eut lieu pour la première fois un jour de 1825 dans les vallons du nord de l'Angleterre. Et de ce qu'on raconte de ce jour mythique, beaucoup furent ébahis par l'étrange bruit des roues qui filaient sur les rails, toute cette machine qui les faisait tourner, tout ce système si nouveau de bielles, de fours à charbon et de vapeurs d'eau, auxquels sans doute ils ne comprenaient rien. Donc après, j'aimerais bien raconter le voyage vers cette première ligne de chemin de fer, là, entre Stockton et Darlington, puisque oui, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même la première ligne de chemin de fer du monde. C'est-à-dire que si là on vit en Angleterre, c'est parce que les Anglais ont quand même inventé le train, quoi. Non seulement ils l'ont inventé, mais en plus ils ont gardé une avance phénoménale pendant une vingtaine d'années largement. En France, le chemin de fer va se développer qu'à partir de 1840-45, alors qu'en Angleterre, dès 1830, il y a un réseau ferré qui ne couvre pas le pays, mais enfin qui déjà s'étend du nord au sud, quoi. Voilà. Alors il faudra que je regarde un peu la suite de mes notes pour voir si j'ai d'autres paragraphes que je pourrais déjà agréger, mais pour l'instant c'est vraiment c'est une suite de fragments que j'ai l'impression de ne pas me sortir, quoi. C'est un peu comme des aiguillages, quoi. Voilà. Ça peut, à tous les moments, ça peut partir d'un côté de l'autre. Ce qui serait la structure idéale de ce livre, en fait, c'est d'obtenir un livre en forme de réseau qui arriverait à être à l'image du train, à supposer que le train lui-même soit une sorte de métaphore privilégiée de la psyché, en fait, ou de la façon dont on peut essayer de construire une pensée. Quoi.
Parmi les 1000 voyages que j'ai longtemps projetés, depuis toujours, oui, il y avait celui-là, de venir en Angleterre et refaire le plus vieux trajet du monde entre Stockton et Darlington. Mais tant pis si pour retrouver l'esprit des lieux, il me faudrait prendre 7 trains différents depuis chez moi. D'abord jusqu'à Orléans, puis Paris, puis Londres. Changer de gare, bien sûr, d'Austerlitz à Gare du Nord, de Saint-Pancras à King's Cross, puis prendre un train encore pour York ou Édimbourg, descendre ensuite à Northallerton, et puis changer à nouveau, attendre un autre train pour Thornaby, descendre et remonter une dernière fois pour arriver là, à la gare de Stockton, où eut lieu la légendaire inauguration du chemin de fer le 27 septembre 1825.
Il a dit Stockton, je crois. Ligne de train, je dis aurait parce que je vois beaucoup de signes muséaux. Qui donc, on va retourner d'ici, rejoindre Darlington, trajet qu'on va faire, 50 km à peu près, enfin c'est-à-dire il compte en miles, 35 miles. Aujourd'hui ils font en avion. Mais quand je regarde le tableau, je ne suis pas sûr de tout comprendre là. Quand je regarde Stockton, j'arrive pas du tout à voir soit c'est Stockton, soit c'est Darlington. C'est très étrange. Je pense que le mieux, ça va être d'aller dans le hall de la gare, si on a un. Car là, on est un peu une sorte de gare en plein air, qui a l'air presque déserte. Étrange endroit. Hein. À part un quai. Je ne vois rien. La première fois que je vois un endroit au monde, il n'y a pas de hall, ni même de machine, mais il est quand même bien écrit. This platform for trains to Thornaby, Middlesbrough, Redcar, Saltburn and Darlington. Donc cette ligne existe.
Alors, je vais vous la lire, cette recension de cette journée. On vient de faire, avec une grande solennité et beaucoup de succès, l'ouverture de la route à Ornières-en-Fer, de Darlington à Stockton. La route se forme de deux plans inclinés, montés et descendent de la longueur d'une demi-lieue. Au haut du plan incliné se trouvent deux machines à vapeur, chacune de la force de 30 chevaux, qui ont amené jusqu'à elles 13 chariots, chacun de 4 milliers, en 8 minutes. Arrivés là, ils furent attachés à la queue les uns des autres à la machine à vapeur locomotive qui devait les tirer dans la descente, et, dans le milieu de la file, on plaça la voiture du comité et des actionnaires de l'entreprise. Cette voiture, nommée « l'Expérience », destinée par la suite à transporter des voyageurs, est de l'espèce de celle qu'on appelle « long coche », où les voyageurs sont assis face à face sur les deux côtés. À un signal donné, cette file de voitures se mit en mouvement aux acclamations de la multitude, assemblée pour être témoin de ce spectacle aussi nouveau qu'imposant, et parcourut toute la route, d'abord jusqu'à Darlington, où on remit de la houille dans les fourneaux et de l'eau dans la bouilloire, et ensuite jusqu'à Stockton, avec une vitesse moyenne de 10 à 12 000 à l'heure. Cette fête de l'industrie se termina par un grand banquet. Alors voilà. Tout ça ne justifie en aucune manière le fait qu'ici, il n'y ait rien. Si c'est bien ce Stockton dont il est question. Bon, comme quoi, le réel est toujours un peu décevant quand même. Bon, alors on essaye de prendre le train dans l'autre sens. J'ai l'impression qu'on s'est trompé.
Quoi ? On est les seuls à attendre sur ce quai.
This one, yeah. I mean the one we are.
The line.
Yes.
No.
There's nothing. There's nothing about memory of that in Stockton.
In Darlington.
But in Darlington, yes.
When you go to Darlington, yes. You can see it on the.
And there's a museum too.
The museum, this North Road. Museum.
In Darlington.
Yeah.
Okay. Okay. Thank you very much.
Thank you.
Entre Stockton et Darlington, donc, 200 ans plus tard, c'est un paisible train de deux wagons qui assure la liaison et transporte quotidiennement plusieurs centaines de personnes. Un départ toutes les heures ou presque pour Darlington, accompagnant ses ouvriers toujours ou bien ses lycéens qui se rendent à la ville le matin. Et c'était presque étrange d'être assis là, parmi ces Anglais qui, quant à eux, ne pensaient plus depuis longtemps à la première ligne du monde, non pas qu'ils l'auraient oublié, non pas qu'ils auraient manqué de le transmettre à leurs enfants, mais sans doute l'affaire était assez sédimentée dans leur mémoire pour qu'elle ne soit pas activée là, au présent de cet après-midi de juin, de sorte que j'ai eu l'impression d'avoir cette origine pour moi tout seul, lestée de tout le poids symbolique que je mettais dans ce trajet-là, au milieu de ces paysages un peu mélancoliques, faits de briques, de champs et de ciel gris, et qui ne différaient pas vraiment de tout le reste de l'Angleterre.
So the best place to start is in this room just here. There's a short film. And then after that's done, you go through the doors on the other side and then head around clockwise. Okay?
Okay.
Thanks, guys.
Thank you very much.
Okay. Bon, si j'ai bien compris, il y a d'abord un petit film. On va essayer d'aller voir. Et puis...
Fine food, ah ben voilà. Thailand, phoning friends in Sydney, or taking the train to Paris are, for many of us, just an everyday part of modern living.
Depuis que je m'intéresse au train, je fais en sorte de ne jamais perdre le contact avec le biotope ferroviaire, avec les motrices qui déchirent l'air et les étincelles des caténaires que j'imagine au-dessus de nos têtes. Quelque chose qui fait que je n'oublie jamais que je suis là, dans le miracle des roues d'acier tournant sur les rails, me disant « Il a fallu qu'un jour quelqu'un pense à ça. Qu'un jour quelqu'un se dise qu'on devrait faire un chemin avec du métal, et que dessus, on ferait tenir des roues en métal, et que métal sur métal, ça roulerait. » Aussi, je repense volontiers aux inventeurs du train. Je repense à James Watt, qui inventa la machine à vapeur, et à Richard Trevithick, qui inventa la locomotive. Là, au cœur de Londres, dans un petit cirque en bois, 20 ans avant la grande fête qui s'étendit de Stockton à Darlington, Richard Trevithick installa une drôle de machine à roues de métal sur un rail circulaire et invita les habitants à venir l'essayer pour la modique somme de 2 shillings. La machine portait le joli nom de « Matrape qui peut » et, vu d'aujourd'hui, on supposerait que ce fut un immense succès. Mais bizarrement, non. Bizarrement, Trevithick ferma boutique après 3 semaines et aucun investisseur ne voulut le suivre. Et alors il fallut attendre 15 années encore que débarque sur la place de l'histoire un certain George Stephenson, ingénieur lui aussi, mais plus synchrone avec son temps, et qui très vite régnerait sur le monde des bielles et des essieux. Car c'est lui qui fabriqua la locomotive qui tracterait les passagers du Stockton-Darlington et qu'on appelle la locomotion. Ah voilà. Et ça ? Ah, ça c'est émouvant. C'est la locomotion, c'est-à-dire la première locomotive qui a vraiment parcouru une distance sur des rails entre deux villes, toujours ce fameux Stockton-Darlington pour transporter du charbon principalement, et qui était le jour de l'inauguration conduite par le célébrissime George Stephenson. Il y a même le heure par heure, la journée de l'inauguration, le 27 septembre 1825, 5h30. Line of wagons pulled by horses makes its way from Darlington towards Bristleton Incline. Noon, the train reaches Darlington. It has had to stop 3 times on the way. 12h38, the train leaves Darlington for Stockton.
crossing the Turnpike Road and then the Skern Bridge.
Do hurry, John. We need to hurry. We must reach the bridge in good time. We may not be able to see otherwise.
Look, Ma, look! There's a rider out there in front. I can hear it! I can hear it! It's coming! It's coming! Can you see, Ma? Can you see?
Yes, yes, I see it. Oh, it does look grand. So many wagons and so many people. There's the company coach, just like Pa said. Do you see, John? The one with the flag. Mr. Pease is in there.
Where's Pa? Where's Pa?
Hush, don't fret, John. He's there. But there are so many people. I'm afraid there will be an accident. Look, there are even men balanced upon the
poles. 5 p.m. The proprietors and their guests enjoy a lavish banquet at the town hall. Midnight. After many speeches and toasts, the banquet finishes. The opening day is hailed as a great success, exceeding the proprietor's best expectations.
Bon ben voilà, c'était Darlington. Il ne restera plus qu'à écrire quelque chose là-dessus.
Même si je suis loin de comprendre dans le détail les évolutions techniques de toutes les machines, j'ai essayé de comprendre les origines du train, et donc, parmi tant d'autres choses, comprendre aussi à quel titre on surnomma Stephenson le pape de la locomotive. À quel titre ce fut une autre de ces locomotives, la bien nommée Rocket, qui s'élança de la gare de Liverpool le 15 septembre 1830 pour rejoindre Manchester. Ce jour-là, la Rocket prit le départ d'une journée plus mémorable encore que celle qui avait fait 5 ans plus tôt la joie et la fierté des ouvriers de Stockton. Là, sur les bords de la mer d'Irlande, et comme lui tournant insolemment le dos, la Rocket parcourut en 1h30 les 35 miles qui séparaient les deux villes. Dans ce voyage inaugural qui m'a amené à Londres puis à Stockton, c'est encore à cause de George Stephenson que j'ai poursuivi mon voyage jusqu'à York. Pour cause qu'à York, se trouve le plus grand musée ferroviaire d'Angleterre et même, et surtout, une magnifique réplique de la Rocket.
Ce que nous avons ici, c'est une réplique du Rocket. Donc c'était en jaune, l'original, qu'on peut voir. Et il y avait un barrel ici pour l'eau, et un petit étage pour le charbon. Et voici un petit firebox. Et c'était le job du fireman d'insérer le charbon dans le firebox pour créer, pour faire briller l'eau dans le boiler ici. Donc on peut voir, c'est...
Que c'est
tube de what metal is it? On peut voir les tubes de cuivre ici. Donc la fumée du charbon parcourt ici à l'intérieur de ces tubes de cuivre et par conséquence, oui exactement, ça chauffe de l'eau à l'intérieur. Donc on crée ce qu'on peut dire, I say, you know when you're cooking, a pressure cooker.
How do you say that? 4 minutes.
What?
Une cocotte minute.
Une cocotte minute.
Oui.
Alors, ça crée une cocotte à minute, en effet. Donc, beaucoup de pressure. Et c'est ce qu'on a besoin d'avoir, de tourner les grands roues par ces pistons ici, en métal, comme on voit. Et c'est la piston?
Le piston.
C'est le piston, ici, qui pousse. Et il y a un piston ici, à droite, et puis un autre à gauche de la locomotive, de tourner des grands roues. Exactement. Et puis la force de ça crée un type de suction, comme il sait, a pressure, ouais. Une pressure.
Qui envoie vers le haut.
And it goes chuff out the top. Hein? Chuff, chuff, chuff. Chou, chou.
Ouais. Thank you very much. Merci.
You're
beaucoup.
Welcome.
C'est très clair.
Merci beaucoup.
Alors il faut qu'on aille regarder si on a réussi à prendre un train. Alors il faut qu'on fasse des choix cornéliens entre Manchester, Liverpool. Quand même, je vais regarder sur internet cette histoire de roquette au muséum de Liverpool, parce que j'ai encore regardé hier, et c'était clair qu'il y avait une roquette à Liverpool. Alors, est-ce que c'était une réplique aussi?
But the actual one is in Manchester because I saw it 2 weeks ago.
Yeah.
So
I trust you.
But it is interesting to see because it's just very plain and very simple. There's not much to it. It's there's a wooden beam at the front and it's just black and grey. Doesn't it look like that?
Bon, on va prendre le train pour Londres alors, on va rentrer. Et dans le train qui nous amenait de York à Londres, en passant par quelques villes dont j'ignorais autant le nom que l'existence, on continuait d'arpenter le territoire anglais, ses plaines plus ou moins vallonnées, plus ou moins pleines donc, mais toujours si arborées et si peu habitées, du moins si on compare avec la France, avec l'étalement infini de nos villages et de nos lotissements, quand là-bas, sur 100 ou 200 kilomètres, on croise seulement quelques bourgs ramassés sur eux-mêmes, et puis de la campagne, si l'Angleterre c'est cela, un immense bocage ferroviaire. De seulement dire cela, de seulement prononcer le mot ferroviaire, je me sens comme porté par le mouvement circulaire des roues sur les rails, à cause de cette sensation qui ne se développe que là, dans les wagons des trains, à toutes ces vitesses que fabriquent les longues lignes où chaque fleur a l'air de s'étirer infiniment sur son talus, où les fils électriques ondulent à peu près comme des vagues sur la mer, et où toute la tension, toute l'électricité statique qui s'accumule quand on reste en place, soudain, elle semble se dissoudre dans, je ne sais pas, le sentiment ferroviaire. Et voilà que mes nerfs eux-mêmes, voilà qu'eux aussi prennent la forme du paysage et s'étirent en ligne droite à la vitesse du train. Que tout en moi s'harmonise quand le train quitte les gares et accélère doucement à la sortie des villes. Qu'alors, comme l'habitat se disperse et les arbres peu à peu gagnent sur les immeubles et les maisons, aussi bien le paysage et les nerfs, la vitesse et la pensée, tout semble se mettre au diapason du même défilé joyeux et interminable. À chaque semaine qui passe, à chaque millier de kilomètres arpentés parmi les plaines et les montagnes, on dirait que je me mets à parler plus couramment encore cette langue secrète et comme cachée dans le paysage. Une langue qu'ensemble, le paysage et moi, nous aurions arrachée involontairement au cœur des choses. Comme un peintre qui aurait posé son chevalet dans un wagon et voudrait saisir ça, la vitesse et la langue secrète du monde dehors. Il y en a un qui a fait ça il y a longtemps déjà. Il s'appelle Turner et il est anglais. Et il a compris cela, le train et la vitesse et la lumière diffuse qui nous rapproche du ciel. Il est sans doute normal que ce soit un anglais qui le premier installe son chevalet sur les hauteurs d'une vallée que traverse un chemin de fer, et étant donné la si large avance que le pays avait pris en la matière. Alors Turner le premier a peint un train perdu dans sa vapeur et sa vitesse et qui traverse un pont sous une pluie jaune et grise et diffuse, un train atomisé dans la lumière peinte et qui fonce droit sur nous dans la diagonale du tableau, un train qu'on peut voir passer des heures durant à une vitesse qui ne change pas. Celui-là. On voit que lui, enfin surtout moi je vois que lui. C'est le tableau de Turner qui s'appelle Rain, Steam and Speed à la National Gallery. Et donc le train arrive du fond du tableau et débarque dans la diagonale en bas au moment où il passe sur un pont, enfin un viaduc, mais à vrai dire on ne le distingue pas très très bien parce que comme tout est fondu, un peu, pas brumeux, mais estompé, c'est un peu sfumato, mais c'est un sfumato
qui fait que en fait, tout se confond, quoi. Le train, le pont, le ciel, la nature autour. Et tout ça dans une sorte de lumière qui hésite entre la lumière d'un orage et de la pluie, et en même temps, une espèce d'éclaircie en arrière-fond qui fait que le tableau est extrêmement lumineux, tandis que le train est très noir, presque noir, une sorte de noir en feu, en quelque sorte. Enfin, dans ce sens où il y a une sorte de rouge dans la locomotive. Il se trouve que quand on regarde un tableau comme ça, on se dit que... On ne sait pas où est l'œuf, où est la poule, si c'est le fait que des choses comme le train se mettent à exister, qui font que la perception change et que la peinture se met elle-même à prendre en charge une certaine façon de regarder le monde, un trouble, en fait, à cause de la vitesse, à cause de la vapeur, en l'occurrence à cause de la pluie aussi, puisque le tableau s'appelle donc Rain, Steam and Speed, c'est-à-dire pluie, vapeur et vitesse. Et il y a un sous-titre aussi au tableau, The Great Western Railway. Donc le grand chemin de fer de l'Ouest, quoi. Moi aussi, je suis un peintre. Moi aussi, j'attrape au vol le nom des villes et les lumières qui traînent le long des routes nationales. Et alors, il me semble que je pourrais écrire sans m'arrêter, que je pourrais laisser la main tracer toute seule les longues phrases virgulées du paysage, quand quelquefois on dirait que le train à lui seul pourrait écrire mon livre, que d'un courant d'air il ouvre les pages de mon carnet et laisse s'imprimer la vie dessus. Quelque chose comme une plaque de cuivre au premier temps de la photographie, qui se nourrit à même les vitres et les trouées dans les villes. Quelquefois, c'est tout mon corps qui a l'air d'être cela, une plaque photosensible qui reçoit les rayons de partout. Il y a une lettre de Victor Hugo. Il n'y a rien à voir avec le Turner, parce que je ne suis même pas sûr que Victor Hugo ait... J'ai eu connaissance de ce tableau, mais par contre, Victor Hugo raconte son premier voyage en train ça doit être en 1837, et c'est assez confondant de... Alors, je vais regarder sur mon téléphone, la lettre de Hugo, 22 août 1837. Ah ouais, c'est une lettre qu'il envoie à Adèle.
Je suis réconcilié avec les chemins de fer. C'est décidément très beau. Le premier que j'avais vu n'était qu'un ignoble chemin de fabriqué. J'ai fait hier la course d'Anvers à Bruxelles et le retour. C'est un mouvement magnifique et qu'il faut avoir senti pour s'en rendre compte. La rapidité est inouïe. Les fleurs du bord du chemin ne sont plus des fleurs. Ce sont des taches, ou plutôt des raies rouges ou blanches. Plus de points, tout devient raie. Les blés sont de grandes chevelures jaunes. Les luzernes sont de longues tresses vertes. Les villes, les clochers et les arbres dansent et se mêlent follement à l'horizon. De temps en temps, une ombre, une forme, un spectre debout paraît et disparaît comme l'éclair à côté de la portière. C'est un garde du chemin qui, selon l'usage, porte militairement les armes au convoi. On se dit dans la voiture, c'est à 3 lieues, nous y serons dans 10 minutes. Le soir, comme je revenais, la nuit tombait. J'étais dans la première voiture. Le remorqueur flamboyait devant moi avec un bruit terrible, et de grands rayons rouges qui teignaient les arbres et les collines tournaient avec les roues. Le convoi qui allait à Bruxelles a rencontré le nôtre. Rien d'effrayant comme ces deux rapidités qui se côtoyaient et qui, pour les voyageurs, se multipliaient l'une par l'autre. On ne se distinguait pas d'un convoi à l'autre. On ne voyait passer ni des wagons, ni des hommes, ni des femmes. On voyait passer des formes blanchâtres ou sombres dans un tourbillon. De ce tourbillon sortaient des cris, des rires, des huées. Il y avait de chaque côté 60 wagons. Plus de 1000 personnes ainsi emportées, les unes au nord, les autres au midi, comme par l'ouragan.
Comme Turner est malin, il il prend le train au moment où il passe au-dessus d'une rivière. Et évidemment, sur la rivière, il y a un bateau qui représente exactement la chose inverse, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement statique, qui se déplace dans un état finalement d'harmonie avec la nature. Donc le tableau est extrêmement violent, en fait. C'est un tableau dont on ne pourrait pas dire d'ailleurs s'il est une ode au train ou finalement une sorte de traumatisme pictural, en fait, pour Turner lui-même, parce que plus on regarde ce tableau et plus le train apparaît monstrueux, en fait. Comme chez Hugo. Mais de la même manière, chez Hugo, c'est jamais non plus pour dire que c'est jamais réactionnaire. C'est jamais pour déplorer l'existence du train, mais pour prendre acte, par contre, de la déchirure que ça produit quand même dans la conscience et dans le paysage. Parce que là, pour le coup, le tableau de Turner, ce qu'il produit, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fondu de tous les éléments, sauf le train. Je crois que c'est de là que cette idée de catastrophe me vient aussi vite à l'esprit quand je pense au début des trains. Et parce que l'histoire des trains n'en manque pas, d'accidents et de catastrophes. À tel point qu'à ce mot-là, catastrophe, on est tenté d'adjoindre presque aussi spontanément le mot ferroviaire que le mot naturel. Et comme si la notion même était née là, dans le bruit du métal qui si souvent se renversa, se plia, brûla ou tomba dans le fond d'un ravin, précipitant l'humanité dans un état de choc qu'elle ne connaissait pas jusqu'alors. Avec elle, tous les auraient pu être qui ne servaient à rien, puisque ces jours malheureux, il arrivait seulement qu'il n'y avait pas de miracle. De l'un à l'autre, il faut dire, de la catastrophe au miracle, il semble quelquefois qu'il n'y ait qu'un pas qu'on franchit à chaque instant dans un sens ou dans l'autre. Du moins, c'est comme ça que j'en suis arrivé à penser, que le monde tel qu'il est, le monde qui vit et continue d'avancer chaque jour, ce monde-là est un monde de catastrophes qui n'ont pas eu lieu. Un monde de catastrophes ratées, et alors j'appelle cela un miracle. Autrefois, je n'aurais pas dit un mot comme celui-là, mais depuis que je voyage, c'est vrai, il m'arrive d'être pris d'un étrange enthousiasme. Rien de grave, je veux dire, rien de religieux, seulement un peu d'émotion devant la vie distribuée heure par heure le long des voies ferrées, sans la moindre crainte que la catastrophe survienne. C'est-à-dire, comme si je vivais dans un miracle permanent, frôlant sans cesse la chute dans quel ravin qui se maintient en contrebas et qu'en un sens, je nargue.
Alors voilà, c'est le Charles Dickens Museum. Et en fait, c'est la maison dans laquelle il a terminé sa vie, où il a vécu les 8 dernières années entre 1862 et 1870, et où il est mort 5 ans jour pour jour après la catastrophe ferroviaire dans laquelle il a été pris. Là, il y a toute une mythologie qui s'est construite autour du traumatisme qu'il a subi pour cette catastrophe, à laquelle il a réchappé, mais où il y a eu beaucoup de morts. Et alors là, c'est donc cette maison qui est au 48 Dufty Street, à Londres. C'est bon là ? T'as un bon son là ? Là, au 48 Dufty Street, Charles Dickens va bientôt se lever de sa table et descendre dîner, dans la salle à manger où déjà le couvert est mis de la plus belle vaisselle. Dans le ray de lumière qui continue de filtrer, les silhouettes qui s'agitaient dans le cerveau géant de Dickens s'évanouissent, tout s'efface et s'endort, jusqu'à demain matin. Et tandis que Dickens, déjà grisonnant, Dickens un peu joufflu par l'âge, descend l'escalier, je me souviens que dans le vestibule qui sert de boutique, comme je regardais les mugs, les livres et les porte-clés qu'on pouvait acheter là, je suis tombé sur ce marque-page en forme de citation, écrit dessus « Home is a name, a word, it is a strong one ». Et c'était comme si le fantôme qui maintenant dînait tranquillement dans la pièce d'à côté, pour ultime ruse avant que je parte, avait trouvé moyen de s'adresser à moi directement. Home is a name, a word, it is a strong one. Je n'ai pas su comment le prendre, je n'ai pas su si Papa Dickens me grondait d'avoir quitté mes dieux domestiques, ou bien s'il voulait me dire combien habiter était chose difficile et pesante pour lui aussi. Une chose est sûre en tout cas, le même Dickens ne pouvait pas m'encourager dans mon travail ferroviaire car, comme je continuais de lire des choses sur les trains, voilà que j'ai appris que le même Charles Dickens, tandis qu'il voyageait dans le rapide qui le ramenait à Londres le 9 juin 1865, secrètement accompagné de sa maîtresse Helen Ternan, avait survécu ce jour-là à l'un des plus graves accidents ferroviaires de l'histoire de l'Angleterre. L'accident du viaduc de Staplehurst, qui fit plus d'une quinzaine de morts et des dizaines d'invalides, et qui vit basculer dans le lit de la rivière en contrebas la plupart des voitures de première classe, à l'exception miraculeuse de celle de Dickens, laquelle, encore attelée au reste du train, resta suspendue au-dessus du vide. Dickens, dit-on, ne perdit pas son sang-froid, parvint à sortir Helen et sa mère du wagon en équilibre, puis descendit au pied du viaduc s'activer parmi les blessés et les morts. Deux moururent dans ses bras, tandis qu'il leur tendait sa flasque de brandy. D'autres disent que Dickens leur sauva la vie, tandis que mille cris s'élevaient parmi le mélange de boue et de métal perdu dans la nuit. Et comme pendant tout ce temps Dickens était resté Dickens, il n'oublia pas que le manuscrit de son dernier roman était resté dans son manteau, dans le wagon qui se balançait toujours au-dessus du vide, et, avant de quitter la scène du désastre par un train d'urgence qui les ramènerait à Londres, il irait, sans que personne ne cherche à l'en empêcher, le récupérer. Mais Dickens lui-même fut cueilli plus tard par la violence du choc. À peine rentré à Londres, il en perdit sa voix pendant 15 jours. Et quoique tentant de surmonter son traumatisme en reprenant le train, il eut jusqu'au bout des accès de terreur et des crises d'angoisse à la seule vue d'un train qui passait. Et peut-être ce fut plus qu'une coïncidence si le 9 juin 1870, 5 ans jour pour jour après son accident, on annonçait la mort de Charles Dickens.
This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner and the girl next door. Pulling up Beatok a steady climb, the gradient's against her but she's on time. Through sparse countries she rampages, her driver's eye upon her gauges, panting up past lonely farms, fed by the farmer's restless arms, striding forward along the rails, through southern uplands with northern mails.
Tandis que ce voyage touchait à sa fin, voilà que le monde en train me paraissait plus habitable et même réconcilié avec moi. Comme si trop souvent autrefois le monde autour était vraiment fâché. En tout cas, cela souvent faisait comme un bâton qu'on aurait trempé dans l'eau et qui donnait l'impression d'être cassé. Que cette fêlure, je l'ai connue toute ma vie, mais voilà que par les vitres du train, je ne sais pas, on dirait que le bâton sort de l'eau et redevient d'un seul tenant. Quand la perception du monde entre en nous comme dans une fleur et semble produire une équation parfaite. La pensée accomplie, non plus grippée, ni énervée, ni conflictuelle, mais simplement mariée avec le monde lui-même. Une pensée informulée, une pensée corps et désir en apesanteur, et qui fait qu'alors, il m'arrive même de penser à la poésie. Et aussi vite je réalise que c'est presque inutile, parce que le poème est là, dans le mouvement pacifié de la vitre. Cela, cette sensation, il n'y a qu'en train qu'il m'arrive de la vivre et d'espérer la faire durer le plus longtemps possible. Il n'y a qu'en train que l'aube ou l'orage ou cette femme dans sa cuisine éclairée, ou bien le linge sur la corde dans ce petit jardin,
cela fait comme un gigantesque partage du monde. Et alors, je jure, sur les fils où le linge suspendu remue au courant d'air du train qui passe, je pourrais enfiler chaque chemise suspendue. Je pourrais dîner dans toutes les salles à manger éclairées dans le soir et embrasser toutes les filles sur les quais des gares où le train ne s'arrête pas. Je pourrais, oui, et cela me suffit. C'était Le Livre des Trains, une émission de Tanguy Viel et Gaël Gillon. Prise de son, Fabien Gosset. Mixage, Cédric Chatelus. And special thanks to Oliver Sims from York.
Jeudi, le podcast Les Populaires de Béatrice Leca. Ils sont en CM2 et en 6e. Il y a les populaires et ceux qui ne le sont pas ou qui refusent de l'être. C'est une série en 7 épisodes, traversée d'iPhone, de comptes Instagram et de disputes enflammées. Et puis dimanche prochain, on partira à Ouessant sur les traces d'un fait divers au milieu des éléments avec Octave Broutard, Ouessant, le vent et son sang.